Radio Classique, les spécialistes.
Pratiquement 7h40 sur Radio Classique, un 49-3 dégainé hier par le gouvernement, un palais Bourbon en ébullition et des organisations syndicales qui ne désarment pas. Elisabeth Borne n'en a manifestement pas terminé avec la rue. Bonjour Dominique Andolfato.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en sciences politiques, spécialiste du syndicalisme et des relations professionnelles en France. Ce 49-3 décidé par l'exécutif hier en début d'après-midi, il rebooste en quelque sorte les organisations syndicales.
Oui, les syndicats dénoncent un déni démocratique. Ils sont très en colère contre cette procédure. D'autant plus en colère qu'en fait, la réforme n'a même pas été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Et donc, ils appellent un nouveau communiqué hier soir. Ils appellent à poursuivre les manifestations et des journées de grève. Mais ils ne jettent tout de même pas de l'huile sur le feu. Parce que, par exemple, il n'y a pas d'appel à une grève générale ou à des grèves reconductibles. Mais il y a de la colère.
On sait qu'en cas de vote et d'adoption du texte, l'unité syndicale se serait certainement fissurée, mais en précisant que le 49-3, et vous le rappelez, est un vice démocratique pour la CFDT ou pour la CFDT et la CGT, Laurent Berger reste finalement totalement allié de Philippe Martinez.
Ah, pour l'instant, oui, quand on lit le dernier communiqué, manifestement, il y a une unité syndicale qui reste très forte. Le contenu du dernier communiqué est même relativement posé. On n'appelle pas à des actions commando. En tous les cas, il n'y a même pas d'appel à des blocages. On ne parle de grève que sur une journée jeudi prochain. Donc, il y a une espèce de, le syndicat reste relativement posé. En fait, ils veulent avoir une attitude extrêmement responsable dans ce mouvement. Ils mettent en avant leur cohérence et pas d'action spectaculaire en quelque sorte.
Mais pourtant, déjà ce matin, on voit sur le périphérique parisien des blocages à certaines portes. Ça veut dire que Dominique Andolfato, la question est toujours la même. Est-ce que les syndicats ont peur d'être débordés par leur base? Est-ce que c'est le risque dans les jours qui viennent?
Ce que vous dites est ce qui s'est passé déjà dans d'autres villes en France hier soir. Effectivement, ils sont débordés par la base. Il y a des franges de la CGT ou des syndicats sud, de l'Union syndicale solidaire, qui dès hier soir ont décidé d'actions assez radicales, des occupations de lieux publics, mais enfin des poubelles incendiées. Il y a eu par exemple à Dijon également des effigies de la première ministre, du président, qui ont été brûlées en public. Donc il y a des actions assez violente en quelque sorte. Mais l'intersyndicale qui pilote le mouvement est sur une position plutôt responsable. Elle exige toujours le retrait de la réforme évidemment, mais n'appelle qu'à des actions relativement tranquilles. Je n'ai plus le mot en tête qui tel qu'ils l'ont formulé, mais des actions de proximité en toute indépendance, relativement posées. Et il ne légitime absolument pas pour le moment ces violences et n'appelle pas donc à des grèves reconductibles. J'insiste encore une fois, c'est ils appellent simplement à des rassemblements syndicaux de proximité, disent-ils ce week-end, et une nouvelle grande journée de manifestation
jeudi prochain. Et justement, cette manifestation de jeudi prochain, est-ce que ces syndicats jouent gros?
Oui, ils jouent gros. De toute façon, à chaque manifestation nationale, ils ont joué plus ou moins leur va-tout. Ils ont mobilisé quand même lors de deux journées, le fin janvier et puis le 7 mars dernier. Il y a eu quand même pratiquement 1,5 million de personnes dans les rues. C'était quand même des manifestations réussies. Mais les autres journées de manifestation, il y a eu quand même un reflux relativement important. Les deux dernières journées de manifestation étaient quand même un reflux sensible. Donc là, ils jouent gros, effectivement. C'est soit... ils arrivent à mobiliser de nouveau de façon importante et le mouvement pourrait être relancé, il pourrait durer encore quelques temps. Soit c'est un peu le chant du cygne, quoi, une espèce de bouquet final qui marque un peu la fin de ce moment plus ou moins historique tout de même.
Il y a eu l'exemple du CPE, Dominique Andolfato, en 2006, un 49-3, puis des manifestations importantes et un retrait. C'est le scénario rêvé par Martinez et par Berger.
Oui, enfin, sans doute que le scénario rêvé, c'est que la réforme puisse être retirée ou peut-être qu'on négocie quelque chose. Est-ce que ce sera possible? Ça me semble relativement difficile. Le scénario tel qu'il va se passer, je le vois plutôt comme, par exemple, en 2010, c'est-à-dire un mouvement qui a été très important comme celui-ci et qui se termine par des actions plus ou moins dures, des actions un peu de guérilla locale, enfin des actions de blocage, etc., des syndicats relativement radicalisés, en tous les cas des franges syndicales relativement radicalisées. Le gouvernement patiente, les choses s'étiolent petit à petit, et puis tout rentre dans l'ordre finalement.
Mais les gens les gens qui manifestent depuis plusieurs semaines, ils manifestent simplement contre la réforme des retraites, ou c'est plus global? Est-ce que c'est aussi des manifestations contre la vie chère, contre l'inflation, contre les bas salaires, et d'une certaine manière contre Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez le sentiment que ce jour plus que la réforme des retraites, en quelque sorte, dans la rue?
Il y a quelque chose de plus, effectivement. Mais c'est vraiment la réforme des retraites qui affecte tout le monde. C'est vrai que le pouvoir d'achat touche tout le monde également. Mais c'est vraiment la réforme des retraites qui a mobilisé, parce que c'est un point qui est très sensible. Beaucoup préparent leur retraite longtemps avant, etc. Beaucoup y voient un moment de vie nouvelle. Et donc, c'est ce qui a vraiment fédéré le mouvement. D'ailleurs, les syndicats ont réussi, grâce à ce mouvement, à attirer à eux, à faire revenir vers eux, et même à attirer à eux de nouveaux soutiens. Quand on observe bien les manifestations, il y a effectivement les défilés, les équipes syndicales qui sont les unes derrière les autres, mais il y a aussi toute une partie des défilés qui se composent de gens qui ne sont absolument pas syndiqués, qui d'ailleurs répugnent parfois à défiler sous des bannières syndicales, et s'ils sont là, c'est une population de quadras, de quinquas, de jeunes sexagénaires, et s'ils sont là, c'est parce que c'est la réforme des retraites qui les motive. Bien sûr, en arrière-plan, il y a la question du pouvoir d'achat, il y a la question du surenchérissement de l'énergie et plus encore des produits alimentaires. Mais le ciment de tout cela, c'est cette réforme des retraites qui remet en cause pour beaucoup des projets de vie. Ces manifestants qui sont relativement nouveaux dans les cortèges, mais qui défilent pas forcément sous la bannière syndicale.
Est-ce qu'un dialogue est encore possible entre Matignon, l'Élysée d'un côté, et les organisations syndicales d'ailleurs? Est-ce que le dialogue continue finalement discrètement, Dominique Andolfato?
Alors, pour me demander est-ce qu'il y a un dialogue possible, est-ce qu'il peut continuer, j'aurais envie de vous répondre, en fait, a-t-il jamais existé? Il y a eu une esquisse, une ébauche de dialogue. D'une certaine manière, on peut emporter, pour le coup, le crédit à la Première ministre. Elle a été relativement maladroite dans cette réforme, mais c'est quand même elle qui, au départ, a dit on ne peut quand même pas laisser les syndicats de côté, on va quand même essayer de se concerter avec eux. De ce point de vue-là, elle a eu une attitude plutôt positive, même si elle n'a probablement pas su mener correctement un dialogue. C'est plus de la concertation. C'est pas facile non plus de se concerter quand on est du point de vue du gouvernement avec les syndicats. Ils sont une dizaine en France, ils ont tous des points de vue différents. Il faut trancher finalement, et donc ça va faire de la frustration chez les syndicats. Donc c'est toujours le dialogue avec les syndicats est toujours extrêmement compliqué. Maintenant, c'est très difficile de le relancer, d'autant plus qu'il était relativement fragile. Et en fait, les syndicats n'ont pas non plus vraiment envie de discuter malgré ce qu'ils disent. Ils sont avant tout en faveur d'une remise en cause de la réforme, et notamment d'un de ces points qui est central, et la question de l'âge, rester à 62 et non pas à 64 ans, ça ferme tout dialogue possible. On peut même pas discuter sur des aspects plus ou moins marginaux, etc. Et d'ailleurs, le gouvernement ne l'a jamais souhaité. Une des erreurs de Madame Borne, c'est d'avoir assez vite centré sa stratégie en direction des Républicains. Et finalement, ça l'a conduit à négliger les syndicats. Elle ne savait pas finalement comment s'y prendre avec eux. Elle a tout misé sur le soutien des Républicains. Mais en fait, les Républicains, finalement, se sont partagés en deux. C'est ce qui explique le 49-3. Tout le monde pensait, et la Première ministre pensait qu'ils allaient soutenir la réforme. Et en fait, non, le groupe des Républicains, ils sont une soixantaine. Il y en a une bonne moitié qui a refusé, ne serait-ce même que de s'abstenir. Et donc, ils ont annoncé qu'ils allaient voter contre. Et donc, finalement, toute la stratégie de la Première ministre s'est effondrée.
Merci, Dominique Andolfato, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en sciences politiques, spécialiste du syndicalisme et même des relations professionnelles. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Marc, qui revient ce matin sur cette journée d'hier, un 16 mars assez imprévisible et qui devrait marquer l'histoire de la Ve République. Il est 7h49.